Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 10 juin 1987.
circonstances. L'analogie des poux et de l'épouse est-elle une analogie? suis propre ou métaphorique. C'est pas le lieu de traiter ça ici. Hein. Mais je vous dis qu'au point de vue théologie mystique, ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est très important de se rappeler. Parce qu'en théologie mystique, on peut se servir des analogies métaphoriques aussi bien que des analogies propres. Il n'y a qu'en théologie scientifique où c'est important de distinguer les deux. Et ça, c'est très important d'avoir cette liberté de la théologie mystique. Mais en théologie scientifique, on doit se poser la question, est-ce que l'analogie de l'époux et de l'épouse est une analogie métaphorique ou une analogie propre? Tout dépend comment on la comprend. Si on la comprend comme un amour d'amitié, c'est propre. Je crois que c'est comme ça qu'on doit la comprendre. De sorte que je serais assez tenté de dire que c'est une analogie propre de l'époux et de l'épouse. Elle est plus propre que l'analogie du corps mystique. Puisque c'est l'amour qui fait l'époux et l'épouse. C'est le choix. Et le choix est spirituel. Et donc, entre le Christ et nous, qu'est-ce qu'il y a de principal? C'est qu'on a choisi Jésus. C'est pour ça que la profession perpétuelle est un sommet, comme le martyr. Puisqu'à ce moment-là, on choisit pour toute sa vie. Donc c'est un vrai choix. Et c'est pour ça que ça touche un sommet, et ça touche ce qui est le plus vital dans le corps mystique. Dans l'alliance de l'époux et de l'épouse. Alors, Marie, à l'égard de Jésus, elle est sûrement la première brebis. Donc, elle est le coup. Elle est tout proche de la pierre angulaire. Alors on peut dire en même temps qu'elle est la clé de voûte. C'est vrai, je crois qu'elle est la clé de voûte. La pierre angulaire est plus enfouie. Et elle est l'épouse de Jésus. Elle est l'épouse de Jésus qui, de fait, l'attire vers lui pour faire une œuvre commune avec elle. L'alliance de l'époux et l'épouse. Quand Jésus dit qu'il est, quand saint Jean parle de Jésus comme époux, mais Marie est évidemment l'épouse, alors voyez bien, si vous êtes dans l'univocité, vous direz, mais non, il n'y a qu'une seule chose de propre à Marie, c'est qu'elle est mère. Mais oui, elle est mère. Mais sa maternité est une maternité contemplative qui implique une amitié. Et l'amitié entre Jésus et Marie est une amitié qui implique un don total de tout Marie à Jésus. Et c'est pour ça qu'on dira épouse. Épouse aussi parce qu'elle fait œuvre commune, la fécondité. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons dire alors que Marie est unie à la très sainte Trinité d'une manière unique. Elle est unie au Père, elle est unie au Verbe de Dieu, par l'humanité sainte de Jésus. Elle est unie à l'Esprit Saint, d'une manière unique. Si elle est l'épouse de Jésus, elle est petit enfant du Père, elle est la mère de Jésus, et à l'égard de l'Esprit Saint, elle est l'instrument de prédilection de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se sert d'elle d'une manière unique. Et c'est parce qu'elle est l'instrument de prédilection de l'Esprit Saint, tout en étant l'épouse du cœur de Jésus, qu'on pourra dire qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit, comme instrument de prédilection. Parce que l'ami, c'est celui dont on se sert le plus et le mieux. Si Marie est dans un lien d'amitié si intime avec Jésus et par lui avec l'Esprit Saint, on peut dire qu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Oui, comment on peut essayer de comprendre cette expression de Saint Louis-Marie Grignoux de Montfort? Parce que lui, il le dit très nettement, l'Esprit Saint dans la très sainte Trinité n'a pas de fruit. Il fallait que Marie donner pour qu'à travers Marie, il puisse avoir un fruit qui est la formation du corps du Christ et la formation de toute l'Église. Mais voyez ça, je dirais, c'est beaucoup plus métaphorique comme langage. Je dirais, Saint Louis-Marie Rumfort a un langage constamment métaphorique, vous savez bien. L'histoire des pommes, c'est tout à fait métaphorique. C'est tellement joli, on voit très bien ça. C'est le paysan qui cultive de très belles pommes. Mais les offrir au roi, c'est pas commode. Alors il faut que la reine soit là et les mette sous un plateau d'argent. Et comme ça, les pommes sont présentées au roi grâce au plateau d'argent. De même, nous, nos petits mérites présentés au roi par Marie sur un plateau d'argent. C'est tout à fait métaphorique, c'est très beau. Ça fait partie de la prédication de Saint Louis-Marguerite de Montfort, qui avait une prédication justement à nos chers Vendéens. Et donc, il fallait s'adapter, quoi. Il fallait pouvoir leur parler un langage qu'ils puissent comprendre. Là, on voit très bien comment, de fait, ils voulaient aller jusqu'au bout du mystère.
Se sert de Marie. Oui, il l'a modelé.
la sensibilité de Marie. Tout de suite, il nous est dit le mystère de l'Immaculée Conception. Et le mystère de l'Immaculée Conception, c'est l'Esprit Saint par les mérites du Christ. Absolument pur. Alors rappelez-vous ce texte magnifique de l'Apocalypse, cette mer de cristal. Parce que ça montre bien comment Marie est mer de cristal. C'est-à-dire la matière la plus pure, la plus merveilleuse, pour refléter toute la lumière de la très sainte Trinité et tout l'amour de la très sainte Trinité. Elle est vraiment cette mer de cristal. Elle est une matière absolument pure. La seule qui soit absolument pure. Puisque nous sommes nés dans le péché originel. Et donc l'Esprit Saint trouve en nous des quantités de choses qui doivent être écartées. Dans un champ dans lequel il y a énormément de pierres. Un bon agriculteur enlève ses pierres progressivement, pas toutes, mais progressivement. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on est en face d'un champ où il n'y aura plus de pierres, il n'y aura plus que la bonne terre. En Marie, il n'y a que la bonne terre. Mer de cristal et bonne terre, vous voyez, les deux analogies. Tout à fait différente. La mer de cristal, c'est plus esthétique. C'est vrai, c'est très beau la mer de cristal. Je trouve ça magnifique. La bonne terre, c'est plus rural. Et donc, on voit bien cette bonne terre capable de recevoir la semence, dans laquelle la semence pourra germer et produire tous ses fruits. Mais l'Esprit Saint va transformer cette matière d'une manière unique par le mystère de l'Immaculée Conception ou dans le mystère de l'Immaculée Conception. Marie est totalement dans les mains de l'Esprit Saint. Entièrement. Il n'y a rien en elle qui soit en dehors. Vous ne pouvez pas dire ça pour vous. Il y a toujours en vous un petit païen qui résiste. Secrètement, dans le silence, mais qui résiste, qui est de mauvaise humeur, toujours, qui a gratté un tout petit peu, pendant quelque temps ça tient très bien, et puis il suffit d'un rien pour que ça éclate, ça couvait. Il y a toujours en nous, à cause des conséquences du péché originel. Pas nécessairement notre mauvaise volonté, mais il y a en nous les trois concupiscences. Donc on est dans un état de pécheur. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de la vie. Et ceci, le Saint-Esprit ne peut pas le travailler directement. Le Saint-Esprit s'en sert. Oui, il s'en sert. Puisque rien n'est négligeable pour l'Esprit Saint. Il se sert de ses conséquences du péché pour exiger de nous un effort plus grand, une lutte. Nous luttons contre notre concupiscence de la chair. La nature humaine soit par le fait même la plus petite enfant du Père, par l'action d'Esprit Saint. Je crois que parmi toutes les créatures, celle qui a prononcé le mieux le nom de Père, c'est Marie. Avec la plus grande force, la plus grande intensité et le plus grand respect. À travers son âme transformée par la grâce, l'Esprit Saint l'a éduqué à dire Père. Et nous pouvons, dans notre foi, entendre Marie disant Père. Elle l'a dit dès le point de départ, elle l'a dit toute sa vie. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en elle. Et c'est une œuvre merveilleuse de faire que cette petite enfant de Dieu, petite créature, la plus aimée, réponde et dispère. Donc cette première œuvre de l'Esprit Saint, c'est de former en elle cette matière absolument pure. Et non seulement cette matière absolument pure, mais cette plénitude de grâce qui lui permet de dire Père en s'offrant. Alors c'est là où on peut tout de suite préciser. Il y a toujours dans l'action de l'Esprit Saint sur nous et sur Marie deux aspects. C'est un artiste qui agit gratuitement. C'est lui qui aime le premier. Et tout vient de lui en premier lieu. Et cet artiste est celui qui nous éduque et qui attend notre réponse. La réponse de Marie, c'est Père. Ça, je crois. Mais quand elle dit Père, elle se consacre totalement à lui. Je vous ai déjà dit, au moins au noviciat, qu'il fallait toujours se rappeler de ce premier exemple, cette première énigme, la vie de Jephté.
Alors ça fait comprendre comment nos vœux
l'action de l'Esprit Saint nous permette d'être des enfants bien-aimés et nous permette de dire Père. Et ça, je crois que si je regarde Marie dans la lumière de l'Esprit Saint, artiste dans l'ordre de l'amour, je dois le dire tout de suite. Et c'est la première œuvre de l'Esprit Saint. Comme Marie voit qu'elle est la petite enfant bien-aimée du Père. Et dans la mesure où elle reconnaît qu'elle est la petite enfant bien-aimée du Père, elle se consacre totalement à son Père. Et ceci demeure dans le secret de son cœur, comme chaque fois que vous dites Père, en vous adressant à Dieu, c'est dans le secret de votre cœur. C'est l'œuvre du don de sagesse et du don de piété. Le don de sagesse et le don de piété qui nous élève jusqu'au Père et qui fait que nous donnons entièrement, pleinement. Marie a vécu de cette consécration. Et la prière dominante de Marie pendant tout ce temps de sa vie cachée, c'est de dire Abba Pater. Et en se soumettant entièrement au bon plaisir du Père, l'action de l'Esprit Saint en second lieu en elle. Je crois qu'il y a une action continue, mais dans le même sens. Elle s'est consacrée de plus en plus au Père. Elle s'est donnée de plus en plus au Père. Elle était de plus en plus transparente à l'action de l'Esprit Saint. La mer de cristal était de plus en plus cristal. Une limpidité absolue. Le second fait qui nous est rapporté par l'Écriture, c'est la rencontre avec Joseph. C'est aussi très beau de voir que l'œuvre de l'Esprit Saint en Marie s'est réalisée avec le concours de Joseph. Autrement dit, si c'est Joseph qui a choisi Marie, ce que je croirais assez volontiers, je ne crois pas que c'est Marie qui a choisi Joseph. C'est Joseph qui a choisi Marie. Et peut-être même les familles, comme ça se faisait de ce temps-là. Mais les familles avec le consentement quand même de Joseph. L'Esprit Saint se sert de Joseph pour dire à Marie: ce nouvel amour, il y a une petite annonciation de Joseph à Marie dont nous ne savons rien. L'Église avait, avant le concile, la messe des fiançailles. Ce serait établi Robden du reste, parce que ça ne m'étonnerait pas que les familles chrétiennes réclament ça. C'était une messe très belle. Et qui était 13, le jour des fiançailles, les fiançailles de Joseph et de Marie, vous connaissez, ça allait très bien. C'était merveilleux. Les fiançailles qui en réalité étaient au fond de Maria, le don de Marie avait à Joseph. Ces fiançailles qui sont dites dans l'Écriture expriment comment la consécration totale à Dieu ne pouvait pas être rival d'un amour d'amitié. D'un amour d'amitié qui réclamera une très grande purification. sens de l'amour à l'égard de celui que Dieu met sur notre route et que nous devons aimer. On continuera de préciser ces mirabilia dei en Marie, tout le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint en Marie. Par l'Esprit Saint, ça nous aidera à mieux comprendre au terme ce qu'est l'Esprit Saint et comment l'Esprit Saint a voulu se servir de Marie comme de l'instrument.